Le grand témoin. Bonjour et bon dimanche chez vous. Grand témoin vous fait découvrir aujourd'hui Ndolambe Ngokwe. Il est professeur, haut fonctionnaire des Nations Unies, ancien représentant spécial adjoint du secrétaire général de l'ONU en Côte d'Ivoire. Et là, il vient de prendre sa retraite après 28 ans de carrière dans le système des Nations Unies. Professeur Ndolambe, c'est un plaisir de vous recevoir dans ce studio de Radio Okapi.
Merci, le plaisir est le mien.
On va vous faire découvrir auprès des auditeurs des Radio Okapi. Ils sont rares, hein, ces Congolais qui occupent des hautes fonctions dans les systèmes des Nations Unies. Vous avez travaillé dans plusieurs missions au sein du système des Nations Unies. On va en parler dans cette émission. Mais vous êtes aussi professeur d'université. Oui. Vous allez nous dire comment vous conciliez votre temps entre en étant haut fonctionnaire des Nations Unies et professeur d'université. On va en parler dans cette émission. Mais on va commencer par une brève biographie de votre personne. On va faire un grand pas en arrière pour parler de votre enfance. Vous êtes né où et quand?
Je suis né à Mapangu. Oui, oui, c'est au Kasaï occidental.
En quelle année?
Oh, il y a un peu moins de 60 ans.
Un peu moins de 60 ans. Vous ne voulez pas nous donner votre âge? Je pense que c'est pas grave. Un peu moins de 60 ans. Donc, vous êtes entre 50 et 60.
Voilà, c'est ça.
Voilà. Alors, c'est là où vous avez passé votre enfance, à Mapangu?
Oui, j'ai passé mon enfance, peut-être les 3 premières années. Et ensuite, nous sommes allés à Ilebo, qui à l'époque s'appelait Port-Franqui. Et c'est là que j'ai fait toutes mes études primaires chez les sœurs religieuses. Et de là, j'ai commencé mes études secondaires au collège Saint-Joseph de Boulongo, toujours au Kasaï occidental, humanité littéraire. Et à la fin de mes études à Boulongo, je suis allé à l'université de Lubumbashi.
Pour poursuivre l'université?
Absolument. Et j'ai obtenu une licence en sociologie.
En sociologie, vous êtes sociologue?
Oui, oui.
Formation.
Voilà. Et c'est de là que je suis allé aux États-Unis. J'ai travaillé avant cela 3 ans.
Après avoir obtenu votre diplôme en sociologie, oui, vous avez arrêté les études pour aller aux États-Unis.
Donc après avoir obtenu mon diplôme en sociologie à Lubumbashi, j'ai travaillé 3 années comme assistant à l'université là-bas. Et c'est ensuite, à la suite de cela, que j'ai eu une bourse d'études de la Fondation Rockefeller. Et je suis allé aux États-Unis pour 7 années consécutives sans retour au pays. Et c'est au cours de ces 7 années...
C'était pour faire quoi? Pour une maîtrise? Pour un doctorat?
Le but était en fait un doctorat. Donc j'ai fait un doctorat en sciences sociales. Mais j'en ai profité pour faire aussi une maîtrise en santé publique, une maîtrise en économie, une maîtrise en anthropologie et bien sûr une maîtrise en sociologie.
Ça fait pas beaucoup tout ça?
Oui, mais comme la bourse était une bourse de 7 années, et quand vous donnez à un Congolais assoiffé de savoir tant de temps pour faire un doctorat, il en profite pour faire autre chose.
Vous êtes, vous êtes complet, quoi. Plus après ou... toutes ces formations que vous avez suivies.
Oui, oui. En fait, ce qui se passait, c'est que au moment où je faisais un travail dans un certain domaine, je réalisais mes lacunes dans d'autres. Par exemple, ma thèse de doctorat portait sur le système de santé au Brésil. Je suis allé faire mes recherches au Brésil. Et pendant que je rédigeais ma thèse de doctorat, perspective des sciences sociales, je me suis rendu compte que pour parler de santé, il faut tout de même avoir des notions biomédicales aussi. C'est ainsi que je me suis lancé en santé publique et j'ai commencé une maîtrise en santé publique pour mieux compléter mon travail en sciences sociales. Avant d'aller aux États-Unis, j'étais directeur du Centre international de développement de l'Université de Lubumbashi. Je me suis dit, bon, j'ai pratiqué le développement, c'est quand même bien de m'équiper des outils théoriques. Ainsi, j'ai commencé une maîtrise en développement aussi. Donc, c'était pour compléter ce qui me paraissait être des lacunes dans ce domaine-là.
Ah, d'accord. Alors, professeur Ngokwe, vous avez grandi dans quelles conditions?
Moi, j'ai grandi dans des conditions de tout à fait normales. Mon père était enseignant. Au moment de l'indépendance, comme tous les enseignants de l'époque, il est entré dans l'administration publique, puisqu'il y avait eu une forte migration du corps enseignant vers les fonctions de l'administration. Il a même fait la politique à un moment. Donc, j'ai eu une enfance plutôt heureuse, oui.
Vous avez grandi dans des bonnes conditions?
Tout à fait, tout à fait.
Et vous étiez quel genre d'enfant?
Moi, je pense que j'étais un enfant très sage. Un enfant qui voulait...
Très sage.
Un enfant qui voulait faire plaisir à ses parents, surtout sur le plan scolaire et académique. Et la recherche de l'excellence était toujours une priorité et une fierté pour les parents. Donc, on s'est lancé dans cela.
Quel est le souvenir que vous avez le plus marqué pendant votre enfance?
Les souvenirs sont
nombreux. Il y en a beaucoup,
sont nombreux. Sais, ouais. Mais parmi ceux qui me viennent à l'esprit en cet instant précis, c'est le fait que j'étais dans une école primaire, à l'époque on appelait métropolitaine. En fait, c'était une école consulaire tenue par les Belges, les sœurs religieuses. Et avant l'indépendance, c'était une école réservée aux Belges. Ce qui était particulier dans cette école, c'est que c'était une école mixte. Quand moi je faisais l'école primaire, il n'y avait pas d'école mixte, les filles à part, les garçons à part. Et cette expérience de mixité de la petite enfance m'a permis de mieux apprécier les filles et les femmes. Puisqu'il y avait des filles qui travaillaient mieux que nous. Donc dès la petite enfance, j'ai vu qu'une fille pouvait exceller et même dépasser l'homme. D'ailleurs, j'en ai fait l'objet d'un ouvrage plus tard, bien plus tard, où j'ai conclu par exemple qu'à compétence égale, à expérience professionnelle égale, une femme est généralement plus performante que l'homme. Et pour moi, cela vient de ce genre d'expérience d'enfance où, étudiant avec des filles, on se rend compte qu'elles brillent parfois mieux que les garçons.
Alors, vous étiez proche des filles ou des garçons?
Non, moi, j'étais proche des deux.
Professeur, qu'est-ce que vous n'aimez pas dans la vie?
Ah, ce que je n'aime pas dans la vie, c'est l'incertitude. L'incertitude, soit l'incertitude des circonstances, soit l'incertitude des hommes. C'est-à-dire, si on ne peut pas se fier à une personne, parce qu'on n'est jamais sûr de ses attitudes, de ses prises de position, ça c'est quelque chose qui m'inquiète.
Votre plat préféré?
Moi je dirais sans hésitation que c'est le foufou avec le makayabu et le pondu.
Et le pondu.
Oui.
Je savais que vous me diriez ça, parce que la plupart des gens du Kasaï aiment bien le foufou, le bitoyo.
Oui.
Et le pondu,
oui,
voilà.
Oui, mais il faut pas oublier que je suis du Kasaï, à la lisière entre Kasaï et Bandundu. Et d'autre part, j'ai fait mon université au Katanga et j'ai enseigné au Katanga. Donc, j'ai dû apprécier aussi le bitoyo du Katanga.
Alors, lorsque vous êtes arrivé au Katanga, c'était votre première fois?
Oui.
C'était quoi votre impression?
Ah, ça, c'est, je n'oublierai jamais, puisque j'ai bien vu comment l'industrialisation et l'urbanisation allait ensemble, parce que venant du Kasaï, où on voit de petites villes plus ou moins développées, et arrivant tout d'un coup au Katanga, où vous avez plusieurs villes, principalement issues de l'industrialisation, et c'est là que j'ai compris ce lien entre industrialisation et urbanisation. Mmh. Et bien entendu, au Katanga, il y a aussi une particularité qui est le froid. Pendant la saison sèche, on expérimentait un froid qu'on n'avait jamais connu ailleurs. Donc, c'était des expériences personnelles intéressantes.
Vous vous êtes adapté facilement?
Oui, puisqu'il faut apprendre à porter deux pulls verts.
Oui. L'ambiance à l'université. Est-ce qu'à votre époque, il y avait aussi la bleusaille?
Ça, c'était la belle époque. Moi, j'ai eu à souffrir de la bleusaille déjà au secondaire. Puisque au collège Saint-Joseph, il y avait une bleusaille aussi très sophistiquée qui durait des semaines et des semaines.
Ah bon?
Oui, et arrivé
aux humanités.
Aux humanités, oui. Aux humanités, là où il y avait des internats, la bleusaille c'était.
Et c'était toléré par les prêtres?
Et le prêtre et même vous bleuissez aussi.
Non, c'est
quand,
pas vrai.
Oui, c'était une expérience incroyable. Et arrivé à l'université, là c'était la catastrophe. Donc
Qu'est-ce qu'on vous a fait subir?
Beaucoup de choses. Hein. Atteinte à mon intégrité physique. On essaie de vous humilier. Et c'était une expérience qui nous apprenait quand même que on a encore beaucoup à apprendre.
Vous n'êtes pas dit, mon Dieu, je suis venu faire quoi dans cette université? Vous n'aviez pas envie d'arrêter, car vous m'avez rentré chez vous?
Ça, c'est une question que je me suis posée à plusieurs reprises. J'ai dit, mais est-ce qu'il faut souffrir comme cela pour étudier? Oui, non, c'était pas agréable du tout. C'était pas du, et chaque fois que le matin, quand le soleil se levait, on se disait, ah, on va encore devoir subir des tortures. C'était effectivement de la torture mentale et parfois même physique.
Mais c'est quand même une mauvaise pratique, non, dans les universités?
Qu'est-ce que
vous en pensez en tant que professeur d'université?
Maintenant, je pense que cette pratique nous a quand même aidé à nous décomplexifier et à relativiser certaines choses, oui. Y compris même notre propre importance.
Et donc vous appuyez quand même cette pratique dans les universités?
Moi-même j'ai eu à la pratiquer quand c'était mon tour.
Mais certains étudiants en font un peu trop, quoi.
Oui, tout est question de rester dans la mesure et de ne pas exagérer et de ne pas oublier les objectifs fondamentaux. Il s'agit après tout d'intégrer ces jeunes qui viennent du collège à un nouveau système. Donc, c'est un effort d'intégration et non pas un effort de destruction.
Alors, professeur Ngokwe, sportif,
Oui, jeune âge, je jouais au football, j'étais gardien, pas le meilleur du monde, mais je me débrouillais tout de même.
Dans l'équipe du quartier?
L'équipe du quartier et l'équipe du collège.
Et actuellement, vous faites un peu de sport, hein?
Je me contente de nager, je devrais probablement nager beaucoup plus. Et je marche aussi. Question de me maintenir en meilleure santé et en meilleure forme.
Vous êtes marié?
Oui, je suis marié et j'ai 4 enfants, dont 2 filles. Jumelles et 2 garçons. Oui.
Ah, vous êtes chamboulé.
Je suis chamboulé. Tata va passer.
Radio Capi, grand témoin.
L'invité de grand témoin aujourd'hui est le professeur Ndolamb Ngokwe. Il est professeur d'université, haut fonctionnaire des Nations Unies, ancien représentant spécial adjoint du secrétaire général de l'ONU en Côte d'Ivoire et dans plusieurs autres pays africains. Et là, il vient de prendre sa retraite après 28 ans de carrière dans le système des Nations Unies. Professeur, on va parler de votre expérience professionnelle, riche expérience professionnelle au sein du système des Nations Unis. Mmh. Je l'ai dit en début d'émission, c'est rare quand même, hein, il faut le dire, il faut être sincère, de voir des Congolais exceller comme ça dans le système des Nations Unies.
Malheureusement, effectivement, c'est vrai.
Voilà. Mmh. Vous nous avez dit que vous avez quitté, après l'obtention de votre diplôme en sociologie à l'université de Lubumbashi, vous êtes allé aux États-Unis. Vous avez obtenu une bourse de 7 ans pour votre doctorat.
Oui, oui.
Est-ce que c'est après toutes les formations que vous avez suivies aux États-Unis, à Los Angeles, hein, précisément
À l'Université de Californie à Los Angeles.
Que vous êtes entré dans le système?
Non. Je suis revenu au pays d'abord et j'ai eu à enseigner 2 années à l'université de Lubumbashi, à la faculté de médecine et aussi à la faculté des sciences sociales. Et c'est à cette époque que j'étais aussi le directeur du centre interdisciplinaire pour le développement de l'université de Lubumbashi. Mais au bout de 2 années, j'ai reçu une offre de l'UNICEF, parce qu'avant de quitter les États-Unis, j'avais passé des interviews. J'ai reçu une offre et j'ai discuté avec mon recteur pour qu'il me laisse partir. Et après de longues discussions, il a accepté de me laisser partir pour 2 années. Et les 2 années sont devenues 28
vous avez
ans.
Vous avez passé des interviews où?
À New York, avant de quitter les États-Unis, oui.
Les Nations Unies vous intéressaient?
Non, c'est une histoire très étrange. En fait, je n'ai jamais été intéressé par les Nations Unies. J'étais en train de terminer ma maîtrise en santé publique à Los Angeles et je travaillais comme assistant d'un professeur qui avait une consultation avec l'UNICEF à New York, qui est à 4000 kilomètres de Los Angeles. Et au bout de cette recherche, il fallait aller présenter les résultats de la consultation à New York. Et le professeur est tombé malade. Donc, il m'a demandé...
Automatiquement, c'est vous qui devriez aller le faire.
Il m'a demandé de le faire, je le fais, ça s'est très bien passé. Et il y avait un monsieur, un Américain, qui s'appelait Tuck Johnson, qui était au service d'évaluation, qui m'a dit, mais au fait, ça ne vous intéresserait pas d'entrer à l'UNICEF? J'ai dit non, parce que effectivement, j'avais déjà un projet de l'Université des Nations Unies pour rentrer au pays et diriger une recherche en soins de santé primaire. Il m'a quand même encouragé à faire des interviews. Ah, il m'a dit non. D'abord, il n'y a pas beaucoup d'Africains à l'UNICEF. Et le peu d'Africains que nous avons, soit parlent le français, soit parlent l'anglais, vous avez l'avantage de parler, eux, le français et l'anglais et le portugais et l'espagnol.
Et vous avez appris toutes les langues, le portugais et l'espagnol, par exemple?
J'étais allé au Brésil pour faire mes recherches. Donc, j'ai dû apprendre. Et l'espagnol, je suis allé à Costa Rica.
Okay.
Donc, il m'a encouragé à faire les interviews. Moi, je ne cherchais pas du travail. Donc, j'ai quand même fait ces interviews-là. Et c'est d'ailleurs une leçon importante que j'ai apprise. Quand vous passez des interviews relax, sans stress, vous êtes beaucoup plus performant. Le fait que je ne cherchais pas du travail, que je n'étais pas du tout stressé, m'a permis de passer ces interviews avec brio. Ce qui les a impressionnés davantage. Ils ont dit, non, il faut que vous travaillez pour l'UNICEF.
Vous avez satisfait aux interviews.
Absolument, absolument. Donc, mais je suis revenu au pays. Et c'est 2 ans après qu'ils m'ont fait une offre que je ne pouvais pas refuser. Donc, j'ai vu le recteur. Il m'a dit que non, que mon avenir, c'était au pays, etc. Mais après de longues discussions, on m'a autorisé à partir pour 2 années. Les 2 années qui sont devenus 28 ans.
Votre premier poste dans le système, au bureau de l'UNICEF, aux îles
du
Cap-Vert.
Tout à fait.
C'était un pays que vous découvriez, quoi.
Oui, un pays extraordinaire que je découvrais et qui avait certaines caractéristiques. C'est un archipel, le Cap-Vert. C'est 9 petites îles dans l'océan. Avant mon arrivée, le pays venait de passer 17 ans, je dis bien 17 ans, sans pluie, puisqu'il y avait la crise sahélienne à l'époque. Mais j'ai trouvé un peuple digne, fier et travailleur. Un gouvernement honnête, une aide internationale utilisée à bon escient pour le développement du pays. Et vous savez que quand je suis arrivé, effectivement, le Cap-Vert faisait partie des pays les plus pauvres d'Afrique.
Ouais.
Mais est-ce que vous savez que 30 ans après, le Cap-Vert est sorti de la catégorie de pays sous-développés? Donc pour moi, en fait, c'est une des plus belles leçons de mon expérience des Nations Unies, de voir que le développement est possible, qu'on peut être un pays pauvre, pratiquement sans ressources naturelles, mais s'en sortir quand même à force de travail, d'organisation et d'institutions solides.
Et donc, vous êtes resté 2 ans au Cap-Vert?
3 ans, oui.
3 ans, oui. 3 ans au Cap-Vert.
Mm-hmm.
Satisfait de votre passage dans ce pays?
J'étais très satisfait de mon passage dans ce pays puisque ça m'a permis de découvrir une autre face de l'Afrique. Ça m'a permis de créer des relations avec les autorités, avec les personnalités. Et non, j'en suis parti très satisfait.
Du Cap-Vert, on vous retrouve au Bénin.
Oui, je suis...
Vous travaillez toujours pour l'UNICEF. Hein.
Oui, oui. Et le Bénin, c'était aussi une expérience fascinante. Vous savez qu'à l'époque, le Bénin faisait partie de pays marxistes-léninistes. Donc, j'ai vécu au Bénin la période historique du passage du marxisme pur et dur à la conférence nationale, à la transition et à l'élection du nouveau président. Donc, j'ai vécu toute cette période-là. Or, comme vous en souviendrez, le Bénin, c'était le tout premier pays à organiser une conférence nationale. Donc, c'était un moment extraordinaire aussi.
Et là aussi, vous avez passé 3 ans.
Oui.
Et donc, c'était des contrats de 3 ans ou bien une année renouvelable?
Non, c'était des contrats de 3 années. Et dépendant de pays, il y a des pays où c'est 3 ans, d'autres 3 ans et demi ou 4 ans. Oui, oui.
Après le Bénin, c'est le Sénégal.
Je suis allé au Sénégal. Et là, c'est une toute autre grande expérience puisque le Sénégal était un des carrefours d'Afrique de l'Ouest. Et le programme de l'UNICEF au Sénégal était un programme costaud avec plusieurs millions de dollars. Et on a vécu aussi une expérience très intéressante là-bas pendant 3 ans et demi pratiquement.
Comme coordonnateur principal des programmes.
Oui, oui. Donc le numéro 2 de l'UNICEF là-bas.
Après le Sénégal, c'est la Guinée,
oui.
Conakry.
Je suis allé en Guinée
comme représentant.
Voilà, je suis allé en Guinée comme représentant de l'UNICEF. Et j'étais le tout premier Africain d'ailleurs à être représentant de l'UNICEF en Guinée. Tout comme plus tard, je vous dirais que j'étais le tout premier Africain à être coordonnateur des Nations Unies au Mozambique. Et c'était une expérience très très intéressante parce que la Guinée traversait à l'époque une période très délicate sur le plan économique et politique. Et on a pu faire un travail que les autorités ont, semble-t-il, apprécié. Et donc, je suis resté pratiquement 4 ans là-bas aussi en Guinée.
Alors, avant de continuer à parler de votre expérience professionnelle, on va prendre quelqu'un qui nous a parlé de vous, qui vous connaît mieux que nous. On va l'écouter et puis on se retrouve juste après.
Je suis M. Kombe, oui, comme vous le savez. Et je suis le cousin germain de M. Ngokwe. Moi, je suis plus âgé que lui, je l'ai connu jeune. Et puis, on s'est séparés parce que moi, je suis venu étudier dans la province de Léopoldville et lui est resté dans la province du Kassai. Parce que nous sommes des Ilebo, nous sommes. Ils aiment même de lui que c'était un génie.
Vous êtes membre de la famille de M. Ngokwe?
Oui, je suis son cousin.
Il est quel genre de personne, M. Ngokwe, vous qui l'avez connu depuis longtemps, qui avez passé du temps avec lui, il est quel genre de personne?
Bon, écoutez, c'est tout d'abord, quand il était jeune, il était un garçon très calme, alors très calme, hein. Et c'était quelqu'un qui aimait s'instruire. Quand il avait un livre en main, en tout cas, il s'instruisait. Et puis quand il était jeune, c'est quelqu'un qui excellait. Il était toujours parmi les premiers de la classe, pas le premier comme tel. Et là, quand il a quitté Mapangu, parce qu'il a étudié à Mapangu, à l'école primaire, il est allé étudier au collège de Boulongo.
Alors, si je comprends bien, c'était un jeune très assidu, qui aimait bien la lecture, qui aimait bien se documenter.
Oui. Très discipliné. Hein.
Il n'était pas
discipliné.
Il n'était pas bagarreur comme tous les jeunes de son âge.
Son grand frère qui est mort malheureusement, qui était aussi professeur d'université. Et lui, c'était un scientiste. Lui avait fait la pétrochimie. Son grand frère était professeur à l'INILU, mais lui était différent de son grand frère. Lui, c'était un homme calme, un homme très calme. Il n'était pas bouillant, et puis il aimait s'instruire, et très respectueux des personnes.
Et comment il vivait avec les gens? Comment étaient ses relations avec son entourage?
Non, très harmonieux. Il vivait vraiment d'une manière harmonieuse avec les gens. Moi, je ne sais pas qu'il ait eu un antécédent quand il était jeune. Non, en tout cas, on ne connaît pas un incident ou bien un antécédent, disons, malheureux. Non, vraiment, c'est quelqu'un qui est même apprécié chez nous jusqu'aujourd'hui. tous ceux qui l'ont connu parlent de lui avec respect.
Monsieur Kombe, là vous avez vanté les qualités de Monsieur Ngokwey, qui est votre cousin. Est-ce que ça veut dire qu'il n'a pas de défauts et qu'il est il est parfait?
Non, je ne dis pas qu'il soit parfait, non, mais c'est un homme, c'est un humain comme tous les autres. Hein. Parfois, nous aussi, les membres de famille, c'est tout. Quand il a embrassé la carrière là où il est à l'ONU, on disait que non, il ne reste plus en contact avec la famille, on s'est plaint, mais après tout, on n'a pas, disons, un problème à lui reprocher comme tel que c'est mauvais. Non, mais il n'a jamais rien fait de mal pour qu'on puisse dire que voilà, il est mauvais sur ses plans ou quoi, non.
Alors, avant de vous libérer, Monsieur Kombe, on va vous demander de lui dédier une chanson. C'est l'habitude dans cette émission, hein. Vous allez lui dédier une chanson, laquelle vous préférez qu'on puisse lui proposer pour lui faire plaisir.
Ah, quelle chanson on peut lui proposer? Attendez, il faut réfléchir. Je crois que lui aimait quand même Nico, si je ne me trompe.
Hein. Nico Cassanda?
Oui, oui. Si vous pouvez trouver une belle chanson de Nico Cassanda vers les années 70, je pense que ça pourrait lui faire plaisir. Hein.
Alors, vous avez un petit message à lui dire?
Le petit message que je peux lui dire à lui, qu'il est toujours aimé dans sa famille. Hein. Il est toujours apprécié, surtout que c'est quelqu'un qui a un comportement exemplaire là où il a été, où il a exercé des grandes fonctions et toute la famille est très contente. En principe, toute la contrée d'Ilebo, les gens d'Ilebo, donc, l'apprécient beaucoup et ils l'aiment beaucoup et il peut compter sur eux pour, disons, l'avenir. Hein. Il peut compter sur toute la population d'Ilebo pour son avenir parce que bientôt il sera retraité. Alors, voilà au moins ce que je peux lui dire. Nous lui souhaitons ça.
Merci beaucoup, M. Kombe. Bonne journée chez vous.
Merci, merci.
Alors, professeur Ngokwey, qu'est-ce que ça vous fait d'entendre ces témoignages sur vous?
Oui, je suis très ému.
Ça se voit.
Je suis vraiment
ça se voit et
très
ça se
ému.
Sent.
Oui, oui, surtout venant de M. Kombe, qui est mon grand frère. C'est lui, pour le moment, l'aîné de notre famille. Ça me touche. Et je me rends compte qu'il me connaît. Il me connaît mieux que je ne le pensais.
Alors, vous ne nous avez pas menti tout à l'heure, lorsque vous nous aviez dit que vous étiez calme, un garçon calme. Instruit,
en tout cas, j'essaie d'être serein. Mm-hmm. Oui, oui, oui.
Alors, tu vous as proposé la chanson de Nico.
Oui, Docteur Nico, c'est mon idole. Mm-hmm. D'ailleurs, je trouve toujours que, quelque part, l'histoire est injuste vis-à-vis de Docteur Nico.
Comment ça?
Parce que son talent ne semble pas être reconnu. Et peu de solistes congolais aujourd'hui jouent encore avec le style du Docteur Nico, qui était quand même un style qui a fait la fierté du Congo, qui a fait la fierté de l'Afrique. Le docteur Nico est connu à travers toute l'Afrique. Et je me souviens quand j'étais en cycle d'orientation, je racontais un jour à mon père que, voilà, est-ce que vous savez que docteur Nico est professeur de mécanique? Est-ce que vous savez que docteur Nico, c'est son grand frère de Cho Mwamba qui lui a enseigné la guitare? Et mon père qui me regarde, qui me dit, mais vous savez tout cela de docteur Nico. Mais qu'est-ce que docteur Nico sait de vous? Mais j'étais scandalisé par cette question. Je me suis dit, mais comment est-ce que mon père peut me poser une telle question? Qui suis-je, moi, pour que Dr Nico me connaisse ou sache ce que j'ai fait? Mais c'est plus tard, bien plus tard, quand je suis devenu adulte, que j'ai compris la profondeur de la question de mon père. En fait, ce que mon père voulait me dire, c'était tout simplement, qu'est-ce que vous allez faire dans votre vie pour que vous soyez aussi connu et reconnu comme lui, par exemple? Voilà.
Alors, une façon de Dr Nico qui vous vient à l'esprit comme ça?
Je connais d'abord toutes ses chansons. J'ai toutes ses chansons, parmi lesquelles il y a Zadio, il y a Tu m'as dessus chouchou, il y a Chantal, il y a ce mec qui est alioté, il y a Ngalola Mipendi à Milan. Docteur Nico, c'était un génie. Et il a formé beaucoup de musiciens, allant de Chantal, il était avec Sangana. Donc, son expérience dans l'African Jazz. C'est lui qui a joué le solo dans les fameuses chansons de l'indépendance.
Oui.
Son expérience dans l'Africa Fiesta. Ensuite, son expérience dans l'Africa Fiesta. Sukisa, tout cela mérite d'être connu.
Et qu'est-ce qui vous ferait plaisir en ce moment d'écouter?
Bon, ce qui me ferait plaisir, c'est peut-être Kirikiri Mabina Yasika ou alors Nakei Abidjan.
Nakei Abidjan, oui, parce que vous avez travaillé en Côte d'Ivoire.
Oui.
Alors, on va demander à la technique de nous balancer la chanson de Dr Nico, Nakei Abidjan, voilà. Pour votre plaisir et pour le plaisir de toutes ces personnes qui aiment la musique de Dr Nico Cassanda.
Merci.
On se retrouve juste après pour la suite de notre entretien.
batia kayo motema okoki kosala ndenge wana te nayebisaki yo malamu nakei na kozonga nakei ya bija nakei daloa nakomi na bwaki bongo na ya mosukru balobi na ngai mama obalobi mosika nazali ye nakolelalela Salama mosali mabe Saki na boyo lelo okosuka wapi Sala nanu na makanisa Ika baide na yo ya bozoba Kakuki oti Baleki na yo mpe babi makana Lopango na vino na tangonga na likaka Beba loba Yo yo Semeki sanga na e mobeli ya 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 Na kei ya bija na kei dalora Na komi na buake Omo na ya musuko Karobi na ngai mama Sika nazalie na kolela lela Solo mama zali mabe Soki na boyo lelo Okosuka wapi Zala na nuna makanisi Ika baide na yo ya bozoba Kukui odie Baleki na yompe babi makana Lopango na bino na tango ngana li Yo yo, semeki sanga na e mobeli ya 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 Munga so kito kovanda na yo, na yo kito liya bato Munga munga yo, yo munga, yo ba Kide boni na kwake, katinde liyo mwate Munga so kito kofanda na yo, na yo kito liya bato Munga mungo yo, yo munga, yo ba Tamule kumina suka, koboya te
parlent de leur vie, de leur parcours et se livrent à cœur ouvert. Grand Témoin invite des femmes et des hommes de culture, des acteurs politiques, sociaux et du monde économique qui ont croisé différents événements et les changements qui ont accompagné les grandes étapes de la construction du pays. Grand Témoin, 45 minutes pour mieux comprendre notre histoire commune, racontée par ses acteurs. Tous les dimanches, 12h15, heure de Kinshasa, en compagnie de Kéline Couté sur Radio Okapi.
Ceux qui viennent de nous prendre en cours, Grand Témoin vous fait découvrir le professeur Ndolambe Ngokwe. Il est ancien représentant spécial adjoint du secrétaire général de l'ONU en Côte d'Ivoire. Il vient de prendre sa retraite après 28 ans de carrière dans le système des Nations Unies. On est en train de parler de votre expérience professionnelle, professeur Ngokwe. Mmh. Après la Guinée, vous êtes allé aux Caraïbes comme représentant des zones bureau de l'UNICEF.
C'est d'ailleurs cette expérience aux Antilles qui m'a amené à publier un de mes ouvrages qui a été édité à Paris aux éditions L'Harmattan, intitulé « À propos des femmes, de noir et du développement ». Parce que quelque chose m'avait frappé aux Antilles. Dès que vous descendez de l'avion, vous remarquez beaucoup de femmes qui occupent des postes de responsabilité aux douanes, à la police. Et à l'époque, par exemple à la Barbade, le ministère des Affaires étrangères était dirigé par une femme. Tout comme le ministère du tourisme, ce qui est très important dans ce pays, puisque c'est un pays qui vit du tourisme. et plusieurs autres fonctions étaient occupées par des femmes. Le matin, en allant au bureau, je voyais la plupart des personnes qui allaient aussi au service, conduisant leur voiture, c'était des femmes. Dans notre bureau de l'UNICEF, nous étions une quarantaine. Il n'y avait que deux hommes, le chauffeur et moi-même. Tout le reste était des femmes. Quand je suis allé présenter mes lettres d'accréditation au ministre des Affaires étrangères, j'étais accompagné par ma chargée de communication, une femme. Et le ministre elle-même était femme, le directeur chargé du protocole femme.
J'étais entouré de femmes.
J'étais entouré de femmes. Donc imaginez mon soulagement quand j'ai vu entrer le photographe qui était un homme. Donc, cette dominance des femmes m'a beaucoup fait réfléchir. Voilà un pays qui avançait, mais géré par des femmes. Et ça m'a permis d'essayer de mieux comprendre ce qui expliquait cela. Malheureusement, cette présence massive des femmes avait aussi des effets négatifs, notamment la violence masculine. C'est aux Caraïbes que pour la première fois, j'ai vécu la violence des hommes contre les femmes. Il fallait tout le temps voyager. D'ailleurs, les deux années que j'ai passées aux Antilles, je n'ai jamais passé deux semaines complètes à la maison.
Dur quand même pour votre famille.
C'était très dur pour la famille, pour les enfants, mais je crois qu'ils se sont habitués.
Après le Caraïbe, vous êtes allé en Côte d'Ivoire, toujours pour le bureau de l'UNICEF.
Oui, et là c'était une très belle expérience aussi, parce que j'étais directeur régional adjoint pour l'Afrique de l'Ouest et du Centre de l'UNICEF. Donc je couvrais les 23 pays, dont le Congo d'ailleurs. C'est cette expérience qui m'a entre autres permis de visiter presque tous les pays d'Afrique. Je crois qu'il n'y en a que deux que je n'ai pas visités. Et certains même à plusieurs reprises. Et c'est une expérience de planification, de gestion du développement, de gestion des crises humanitaires dans tous ces différents pays-là.
En RDC aussi?
Oui, j'ai dû couvrir... J'ai dû envoyer des gens s'occuper, par exemple, du volcan Nyiragongo et tout ça. C'est à l'époque, j'étais à Abidjan. Oui. Et je suis venu en mission officielle, ici même en Côte d'Ivoire.
En RDC, à Kinshasa.
Oui.
Après la Côte d'Ivoire, vous êtes allé à New York. Là, c'est pour travailler au secrétariat exécutif du conseil d'administration.
Oui, c'était une très belle expérience. J'étais le premier Africain depuis l'histoire de l'UNICEF, plus de 50 ans à occuper un tel poste. Donc, c'était un défi particulier. Est-ce qu'un Africain va parvenir à mettre ensemble différents États membres qui se disputent, chacun ayant ses intérêts? Je crois qu'on s'en est bien tiré après 4 années.
Oui. Pas des frustrations?
Non, pas vraiment de frustration, mais c'est là qu'on se rend compte que chaque État a ses intérêts et essaye de pousser ses intérêts en établissant des alliances ou de partenariats avec d'autres États.
C'est pas une tâche facile, hein?
Pas du tout. D'ailleurs, ça je peux le dire, c'est pas vraiment un secret. Lors de mon tout premier défi, c'était, il y avait un sujet que le président du conseil d'administration voulait discuter. Mais le sujet était tellement délicat que la directrice exécutive de l'UNICEF ne voulait pas qu'on en parle publiquement. Alors, il fallait trouver une solution. La solution que j'ai proposée était que le sujet soit discuté non pas en plénière, mais dans un déjeuner à part. Et ça s'est réalisé, et c'était ma toute première leçon sur comment concilier des points de vue divergents des autorités.
Après l'UNICEF, on vous retrouve au PNUD.
Oui. Là, c'est une toute autre expérience, puisque là, vous passez de ce qu'ils appellent assessment. C'est un système d'interview très particulier. Et pour être tenu comme coordonnateur des Nations Unies. Donc, j'étais au Mozambique, comme coordonnateur du système des Nations Unies, en même temps comme représentant du PNUD. Je dis que c'était une expérience intéressante puisque là, on entre en plein dans le développement et dans la coordination des agences des Nations Unies, ce qui n'est pas facile, mais aussi dans la coordination de l'aide internationale. Puisqu'en tant que coordonnateur résident du système des Nations Unies, j'étais le coprésident avec le directeur de la Banque mondiale de la coordination de toute l'aide que le Mozambique recevait. Or, le Mozambique, c'est un pays qui reçoit beaucoup d'aide, qui a beaucoup de pays partenaires ou donateurs. Et c'était aussi une expérience très intéressante.
Avec cette expérience au sein du système, je constate que vous avez beaucoup voyagé. Vous connaissez les réalités de beaucoup des pays africains, qui sont presque les mêmes, hein, partout.
La plupart de nos pays affrontent le même genre de problème, le problème de pauvreté, le problème d'inégalité, les questions relatives à la gouvernance, questions d'infrastructure. Et la question de la cohésion nationale, l'impératif de réconciliation, oui, ça c'est vrai. Donc chaque pays a sa manière de gérer ce problème. Il y en a qui le font avec plus ou moins de succès ou de bonheur.
Et votre dernier poste au sein du système des Nations Unies, c'est en Côte d'Ivoire.
Oui, oui. Où j'étais représentant spécial adjoint du secrétaire général, chargé de la reconstruction, des questions humanitaires et du développement, et en même temps coordonnateur des Nations Unies et représentant du PNUD et coordonnateur humanitaire. Ça, c'est une expérience particulièrement riche, parce que j'y étais au moment de la crise.
Justement.
J'étais au moment de la crise et j'ai participé à tout ce processus-là, que ça soit la crise politique elle-même ou la crise humanitaire ou la question de la reconstruction
aussi,
qui est maintenant au cœur même du débat. Et vers la fin, nous avons dû aider le gouvernement à développer son plan national de développement, le tout premier depuis plus de 20 ans. Donc ça aussi, c'était une expérience. Donc au bout de ce parcours, je me rends compte que j'ai fait l'humanitaire et le développement, puisque l'UNICEF, en fait, c'était des questions humanitaires et de développement, touchant à la santé, à l'éducation, à la nutrition, avec une focalisation sur l'enfant, la femme et les communautés. Au niveau du PNUD, c'était principalement les questions du développement et de la coordination de l'aide. Et au niveau de l'ONUCI, c'était le maintien de la paix, questions humanitaires et recouvrement. Je crois que j'ai fait le tour de l'ensemble du système des Nations Unies. Et je l'ai fait aussi bien au niveau pays qu'au niveau régional, qu'au niveau du siège. Donc j'ai la perspective de tous les niveaux.
Et donc vous connaissez bien le système.
Oui, très bien. Je pense que je le connais.
Mais pourquoi vous avez décidé de prendre votre retraite? Vous n'avez pas encore atteint l'âge de la retraite?
Non, effectivement, je pouvais continuer. Mais vous savez, je prends la retraite avec le grade de secrétaire général assistant. Et au-delà de cela, ça devient politique. Et il faut le soutien du pays. C'est le pays qui devrait me proposer pour la suite. Et j'ai préféré rentrer dans mes occupations premières, à savoir l'enseignement et la recherche, puisque l'Université de Californie, où j'ai étudié, m'a offert un poste d'enseignant à partir de septembre. Et l'Université des Jésuites, en Côte d'Ivoire, m'offre aussi la possibilité d'enseigner, puisque tout en travaillant aux Nations Unies, j'enseignais.
Vous enseignez. Comment vous faisiez? Parce que je sais que quand on est haut fonctionnaire comme ça, on n'a pas beaucoup de temps pour soi-même déjà. On est tout le temps parti. Comment vous faisiez pour concilier l'université et le travail des Nations Unies?
Pour moi, c'était un impératif de survie, un impératif de santé mentale, je dirais. Étant donné tout le stress professionnel dans la gestion de personnes, des tensions et des conflits, dans la gestion des finances, dans le conseil qu'on doit donner au gouvernement, etc., tout ce stress-là, il fallait trouver quelque chose d'autre à faire. Donc pour moi, le monde académique, c'était mon refuge. Et c'est ainsi que, après les heures de service, je pouvais enseigner 3 heures, 4 heures au niveau de maîtrise. Et bien entendu, bénévolement, puisque étant fonctionnaire des Nations Unies, je pouvais pas avoir des rémunérations. Mais au moins, ça me forçait à lire autre chose que la littérature des Nations Unies, que nos rapports, etc. Ça me permettait de me maintenir avec ma famille d'origine, qui est le monde académique.
Et si je donne un exemple, vous êtes en Côte d'Ivoire et que vous devez aller donner cours, par exemple, au Mozambique.
Oui, oui.
Comment ça se passait?
Oui. Non, ce qui se passait, en fait, c'est quand j'étais posté dans un pays particulier que j'ai donné cours à l'université de ce pays.
D'accord,
voilà.
Ok.
Au Mozambique, j'enseignais à l'Institut supérieur des sciences et en Côte d'Ivoire, à l'université des Jésuites, et la même chose au Sénégal. Donc, c'était dans ce pays-là que j'enseignais. Mais, bien entendu, à cause de cela, j'ai maintenant des relations. Par exemple, à ma retraite, l'université des Jésuites m'invite à continuer à enseigner. Je leur ai dit, je le ferai avec plaisir, mais cette fois pas bénévolement.
Avec rémunération. Voilà. Mais ça vous fatiguez pas? Ça pèsait pas sur vous, finalement?
Oui.
Après le boulot, il fallait donner cours.
Oui, c'est maintenant que je m'en rends compte. Surtout que pour chaque heure de cours, il faut au moins 4 heures de préparation. Mais le bénéfice que j'en ai tiré, c'est que ça m'a permis de continuer à publier. J'ai publié 3 ouvrages et j'ai publié 20aine d'articles dans des revues scientifiques à travers le monde. Et de cette manière, je peux facilement continuer à rentrer dans le monde académique.
Et ces 28 ans d'expérience au sein du système des Nations Unies, qu'est-ce que vous en tirez?
J'en tire d'abord beaucoup de respect pour le système multilatéral et en particulier pour le système des Nations Unies. J'ai eu à côtoyer de personnes et de personnalités de toutes sortes, de grands hommes et de grandes femmes qui ont consacré leur vie à l'idéal international et qui ont mis toute leur expérience et leurs compétences au service de différents pays, parfois au prix du sacrifice personnel et du sacrifice de leur famille. Donc, beaucoup de respect pour ce système. Mais en même temps, je me suis rendu compte qu'il y a des pays qui en tirent plus avantage que d'autres. C'est-à-dire, si vous savez comment le système fonctionne, étant membre de ce système-là, vous devez pouvoir en tirer un grand bénéfice. Que ça soit sur le plan de la protection de vos intérêts stratégiques, que ça soit même sur le plan de l'obtention de financement. Pour moi, ça c'est...
Mais pourquoi cette différence des pays qui en tirent plus que d'autres?
Je vous donne un exemple simple. Tous les temps que j'étais aux Nations Unies, surtout au siège, je participais à plusieurs réunions de certains États membres venant interpeller l'UNICEF sur le nombre de leurs ressortissants qui sont... à l'UNICEF. Ce n'est pas caché, c'est officiel, puisque les Nations Unies ont comme principe de promouvoir la diversité sous toutes ses formes, y compris la diversité des nations. Il est normal que toutes les nations soient représentées. Donc ces États venaient demander des comptes, disant mais comment ça se fait que nous n'avons pas beaucoup de gens de notre pays dans le système? Ou comment ça se fait que la plupart des gens de notre pays qui sont dans le système occupent des grades inférieurs? Donc, à mon avis, il faut que les États... Il y a des États qui font cela, il y en a qui ne le font pas.
Est-ce que la RDC le fait ou l'a fait pendant que vous étiez dans le système?
Si la RDC l'a fait, je n'étais pas dans cette réunion-là.
Ça veut dire que vous n'avez pas vu les délégués de la RDC venir poser la question de savoir pourquoi on n'a pas assez des Congolais au sein du système.
Non, ça je n'ai pas vu. Mais par contre, j'ai vu plusieurs autres pays du Nord ou même des pays africains le faire. Parce que ce n'est pas interdit, ça fait partie de nos droits.
Est-ce que lorsque le pays vient demander des comptes, ça peut avoir un impact sur le recrutement même des fonctionnaires de l'ONU?
En tout cas, ceux qui recrutent feront attention. Ils se rendront bien compte que tel pays est sous-représenté et un effort sera fait.
Professeur Ngokwe, c'était un plaisir de vous recevoir dans cette émission. Nous sommes à la fin de notre entretien. Qu'est-ce que vous diriez à tous ces Congolais qui ont envie de travailler dans le système, d'avoir cette riche expérience au sein du système comme vous?
Peut-être avant de répondre spécifiquement à cette question, je voudrais dire que une autre leçon que personnellement j'ai tirée, sur laquelle j'aimerais vraiment insister, c'est la possibilité du développement. Le développement est possible. Le pays peut avancer. Il y en a qui parviennent à le faire.
Alors vous avez donné l'exemple du Cap-Vert.
Du Cap-Vert. Je pourrais donner celui du Ghana, je pourrais donner celui du Mozambique, mais vraiment le développement est possible. Il s'agit de mettre en place les fondamentaux, les prérequis, d'abord la paix, la stabilité, la sécurité, mais aussi les cadres macroéconomiques stables, les infrastructures, les secteurs sociaux, et utiliser la diaspora. Un pays comme le Cap-Vert utilise à très bonne échelle sa diaspora. Donc le développement est possible et il y a des raisons d'espérer, même pour un pays comme le nôtre. Maintenant, quel message donner aux jeunes Congolais? C'est de leur dire que le système des Nations Unies est à leur disposition et que si vous postulez une fois et que vous n'êtes pas retenu, n'en concluez pas que le système est injuste. Continuez à persévérer, tôt ou tard, quelque chose pourra s'ouvrir. Le système est là, les opportunités sont nombreuses, il faut les saisir.
Merci, professeur.
Merci à vous.
Et grand témoin, c'est fini pour aujourd'hui. Je rappelle que je recevais le professeur Ndolambe Ngokwe. Il est professeur d'université, ancien représentant spécial adjoint du secrétaire général de l'ONU en Côte d'Ivoire. Actuellement, il a pris sa retraite. Merci à Guy Manzangou qui était à la mise en onde. Au micro, Kéline Couté. Retrouvez cette émission sur notre site internet www.radiocapi.net. Bon dimanche chez vous et bonne suite de programme sur la fréquence de la paix.